Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service avec Tati Mampoukou.
Okapi.
Voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service, quels sont les avantages liés à la création du couloir vers Kivu-Kinshasa. Nous en parlons avec Junior Chiteya, il est expert en développement. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour chers auditeurs.
Nous meilleurs voeux en même temps.
Meilleurs voeux à tous.
Nous aurons comme deuxième invité M. Patrick Saïdi, qui est le coordonnateur de la dynamique des groupes des peuples autochtones qui est en route. Il sera là d'un moment à l'autre. Et si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires sur ces projets au numéro 099-706-9941, c'est aussi possible. De nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Grâce à Mvuezolo s'occupe de la réalisation de cette émission et Billy Landry Betou est à la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Les projets couloir vert Kivu-Kinshasa portés par le gouvernement de la RDC ne cessent d'alimenter les débats chez les acteurs de la société civile environnementale et des voix continuent à s'élever pour décrire la manière cavalière dont ces projets sont en train d'avancer. Et la dernière en date est celle de la dynamique des groupes des peuples autochtones, DGPA, qui dans une note technique publiée en décembre dernier relève les défis, les risques et les incidences socioculturelles que ces projets pourraient engendrer dans sa mise en œuvre. Alors, en quoi va consister exactement les projets couloirs vers Kivu-Kinshasa et quelle pourrait être son incidence, son impact sur les vécus quotidiens des communautés locales et quelles sont les dispositions qui sont prises, qui doivent être prises pour éviter des conflits entre les différentes communautés qui vivent dans ces régions dans lesquelles les projets sera déployé. Nous en parlons dans cette seconde partie du magazine Okapi Service avec Monsieur Junior Chiteya, il est expert en développement. Nous aurons également dans ces rendez-vous Patrick Saïdi, qui est le coordonnateur de la dynamique des groupes des peuples autochtones pygmées. Junior Chiteya, bonjour et dites-nous les couloirs vers Kivu-Kinshasa. C'est quoi le concept? Parlez-nous un peu de ces projets portés par les chefs de l'État, bien sûr.
Bien, je suis expert en développement durable, en durabilité, en économie du climat. Donc, c'est pas en tant que partie prenante du processus, mais personne intéressée hautement par les questions du développement de ce pays, notamment du développement vert, l'économie verte.
En tant que spécialiste.
Que je me suis renseigné. Et donc, toutes les informations que je pourrais partager avec les auditeurs viendraient des bribes d'informations qui sont collectées. Certaines sont publiques, certaines sont confidentielles. De but en blanc, moi je pense que c'est un projet à féliciter par la volonté politique. Je tiens à rappeler que la dernière fois qu'on a eu autant d'engagements politiques pour réaliser une ambition nationale environnementale, ça date de l'époque coloniale. Et par la suite, on a vu le président Mobutu en son temps qui a fait un effort pour augmenter les superficies d'air protégé, pour augmenter les superficies de conservation de la nature. En sachant que le développement durable, c'est la recherche de l'équilibre entre le bien-être de l'homme, la création de la richesse et le maintien de la nature. Nous sommes donc dans une circonstance assez spécifique aujourd'hui, parce que nous faisons face à ce que on appelle la sixième extinction de masse. Jamais la nature n'a été aussi en péril. Et donc, aujourd'hui que notre pays s'est engagé, d'ici 2030, à consacrer 30% de son territoire, ça veut dire 70 millions d'hectares de notre territoire à la préservation et la restauration de la biodiversité, je trouve tout à fait opportun et félicite vraiment l'initiative du chef de l'État de consacrer cette mégazone à un programme de développement durable.
Et nous devons le rappeler, les couloirs vers Kivu-Kinshasa donc va traverser plusieurs régions de la RDC, donc du Nord Kivu jusqu'à Kinshasa, et au sein de la société civile, ça suscite des débats sur la faisabilité, le déploiement de ces projets. Est-ce qu'il y a à craindre dans le cadre de ces projets-là?
Alors, je pense qu'il y a certaines questions auxquelles les personnes attitrées devraient répondre, mais moi j'ai analysé les différents documents, notamment les documents des descriptions, même l'ordonnance la loi révisant la loi sur la conservation de la nature avec toutes les nouvelles incises. Des informations que j'ai, je pense qu'il y a un gros procès d'intention. La création d'une aire protégée à vocation communautaire, dénommée couloir écologique Kivu-Kinshasa, c'est une décision politique d'affectation foncière, d'une zone de notre territoire national à un type de développement. Il faut faire très attention avec les aires protégées classiques, qui sont des zones d'exclusivité dédiées à la conservation, à la recherche. Et on a des modèles tels que des réserves de biosphère qui sont des espaces de cohabitation homme-nature. Par contre, ici, nous sommes dans un cas où l'État, dans sa souveraineté, on va dire le chef de l'État, estime qu'il est opportun, dans les cadres de l'engagement de notre pays à contribuer efficacement à l'action climatique, à la résolution de la crise écologique qui est liée à la perte de la nature, de la biodiversité, de consacrer une partie importante de notre territoire national à une manière de développer l'économie.
Oui, mais quel type d'activités seront développées dans ces couloirs?
Exactement.
Vers Kivu-Kinshasa?
Il n'y a pas de type d'activités qui seront développées. Par contre, toutes les activités qui y sont devront se verdir. C'est en fait ça la nuance. Il faut savoir qu'on n'a pas fait de l'expropriation foncière. L'État n'a pas vocation à décider que ici tu as ta concession d'exploitation du bois, ici tu as ta concession communautaire, ici tu fais les mines, l'État décide que tu ne fais plus. C'est pas ça. Le corridor est une affectation spatiale qui dit, en RDC, nous avons différents types d'activités économiques. Malheureusement, ces activités ne sont pas vertes. Et le chef de l'État, il dit,
ces activités ne sont pas développées dans la durabilité.
Exactement. Cette mégazone va être une zone, on va dire, pilote. En réalité, toute la RDC. Je souhaite rappeler à nos interlocuteurs que la RDC, depuis longtemps, a fait vocation de se développer par l'économie verte. Et ce développement est censé être national pour adresser les défis de la lutte contre la pauvreté, du changement climatique et de la perte de la biodiversité. Maintenant, si le chef de l'État décide qu'un quart du territoire national va servir de pilote pour développer ce modèle qui doit être national d'économie verte, je trouve pas que ça devrait porter ou heurter. Mais par contre, là où, et je comprends les acteurs de la société civile, parmi lesquels je fais partie en tant qu'entrepreneur, c'est le processus. Il est essentiel, je pense que c'est l'éternel plaidoyer que nous menons, que les gouvernants apprennent à établir de dialogues francs avec les parties prenantes. Les décisions politiques ne sont pas mauvaises. Mais une décision mal comprise, elle est sujette à tout type d'interprétation. Ces informations que je vous partage, ce sont des informations que j'ai reçues des personnes attitrées. Mais l'avantage avec cette aire protégée, cette zone consacrée comme aire protégée, c'est une affectation foncière où il y a un interlocuteur désigné, qui est, par exemple, l'Institut National de Conservation de la Nature, l'ICCN. C'est un corridor qui traverse, je crois, 8 provinces. Si vous voulez mettre en place un projet avec un corridor qui traverse 8 provinces, plus de 50 secteurs, si vous avez une multiplicité d'interlocuteurs, ça ne marchera pas. Et donc, ils ont trouvé un excellent hybridage pour dire on va affecter une zone foncière, on va identifier un interlocuteur et puis on va aller discuter avec toutes les parties prenantes, que ce soit les communautés, les miniers, artisanaux ou industriels, les exploitants du bois, les concessions forestières, que toutes ces personnes puissent transiter vers l'économie verte. Et donc, je dirais, moi, sur les 2 345 000 hectares de superficie nationale, que l'on commence déjà à consacrer 540 000 à un pilote d'économie verte, c'est une initiative qui doit être louée.
Mais en même temps, la DGPA aussi, souligne que cela va impacter négativement sur les vécus quotidiens des PAP.
Non, excusez-moi, je ne sais pas quand est-ce que l'impact sera négatif. Quand? Parce qu'ici, on ne dit pas que vous êtes exproprié. On ne dit pas que tout à coup on va vous imposer.
Non, parce que cette communauté a un mode de vie à elle.
Justement, la communauté a un mode de vie à elle. D'accord? Mais en même temps, notre pays a pris des engagements internationaux de contribuer de 30% du territoire national à la conservation et à la restauration de la biodiversité. Ça veut dire 70 millions d'hectares. D'accord? Dans cette contribution, le gouvernement doit contribuer de 40%, ça veut dire à peu près 40 millions d'hectares, et les communautés sont censées contribuer de 30 millions d'hectares. Mais non, si l'État dit « je veux démarrer ce processus, accélérer mon engagement » en mettant en place une décision politique d'affectation, mais je mets dans cette décision politique des mesures d'encadrement telles que le consentement libre éclairé et ainsi de suite. Il faut savoir que les modes de vie de nos paysans, je pèse bien mes mots, sont illégaux. Tout simplement parce que mettre le feu de brousse, c'est interdit.
Oui.
Faire de la déforestation itinérante sur brûlis, c'est interdit.
Exactement.
Par la loi de l'environnement.
Exactement.
Mais par le fait.
Est-ce qu'ils le savent?
Non, c'est justement ça. Et donc,
il y a aussi des pratiques socioculturelles.
Tout à fait.
En saison sèche, par exemple, pour chasser des gibiers.
Exactement. Effectivement, et cette réserve n'est pas une zone d'exclusion. Il ne faut pas porter d'un plan d'intention. Et je rappelle, je ne suis pas mandaté par l'État, je ne suis pas une personne qui connaît ça, mais étant développeur de projets, des durabilités sur la nature, je sais que toujours quand vous mettez en place un modèle économique de durabilité, vous devez avoir des zones, des restaurations de la nature, et d'ailleurs, nos ancêtres sont les premiers à les faire avec la sacralisation. L'État va dire, ici vous conservez, mais nos ancêtres, c'était tu entres, tu meurs.
Oui, les forêts sacrées par exemple.
Les forêts sacrées. Et donc ici, c'est juste une mégazone dans laquelle la volonté politique va pousser tous les autres entrepreneurs. Si vous êtes dans les mines, vous devez développer des écomines. Si vous êtes dans l'exploitation du bois, vous devez faire de la production durable du bois. Si vous faites du cacao, ça doit être du cacao durable.
Si vous êtes dans la pêche, vous devez faire de la pêche durable.
Et c'est un méga couloir dans lequel on va promouvoir des comportements de durabilité, mais qui est une zone affectée avec des interlocuteurs institutionnels. Et moi, si ça dépendait que de moi, je porterais un plaidoyer pour qu'on augmente cette zone. Pourquoi ? J'en discutais dernièrement avec un des décideurs sur le projet. Je lui dis, mais j'ai vu, vous avez délimité autour de Bumba la zone quand vous êtes dans la partie de l'équateur. Et pourtant, juste à côté de la zone où ils ont mis la frontière, il y a la réserve d'Abou Mombanzi, au nord au Bangui, qui est la seule région où on retrouve, à part l'Ituri évidemment, où on retrouve les okapis à l'état sauvage.
À l'état naturel,
c'est-à-dire non capturé, ainsi de suite. Et on appelle cette zone une écotone, parce que la forêt d'Abouzi est une forêt tampon entre la forêt tropicale et la zone savanicole qui s'étend sur les fameux plateaux qui sont au-dessus là-bas. c'est une zone tampon avec beaucoup de biodiversité, mais qui est abandonnée. Mais quand on dit biodiversité, on ne dit pas exclusion de pratiques économiques. On dit au contraire pratiques économiques conciliant avec l'environnement. Et si je pouvais faire un autre plaidoyer, c'était d'ajouter la province du Maniema à travers la chefferie des Babira Bakweme, qui est un endroit où vous retrouvez les gorilles de Goer. Une zone d'ailleurs où les communautés ont décidé d'elles-mêmes de protéger cette espèce endémique qui se retrouve là-bas par une forêt sacrée à Pugna. C'est des faits. En fait, ce que la volonté politique, ce que le chef de l'État a décidé de faire à travers la mise en place du corridor écologique Kivu-Kinshasa, n'est qu'une organisation de petites initiatives qui sont mises en place pour les accompagner à se développer, mais en maintenant un équilibre entre l'homme et la nature.
Monsieur Junior Tchitea, dans ces rendez-vous, on donne également la parole à la population. Donc, on va quitter le studio pour aller au standard, donner la parole aux premiers intervenants. Quels sont les avantages de la création du couloir vers Kivu-Kinshasa? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Monsieur Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Ah, bonjour Tati, bonjour à l'invité.
Nous parlons des avantages liés au projet de création d'un couloir vert Kivu-Kinshasa. Un commentaire ou une proposition à ce sujet?
Merci beaucoup. Je pense que si j'ai adressé la question à l'invité, c'était juste pour demander en fait quel est le niveau de leur sensibilisation vis-à-vis de la population qui vont déjà effectuer. Est-ce que l'invité pense que la création d'un espace vert était
la liaison se dégrade avec
congolaise ou de l'espace prévu?
Il y a eu une micro-coupure. Pouvez-vous répondre la question, s'il vous plaît?
Oui, la première question était de savoir si le niveau de sensibilisation.
Oui, si les communautés sont sensibilisées. Ok.
Est-ce qu'ils ont sensibilisé la population pour leur montrer l'intérêt, l'importance de l'espace vert? La deuxième question, c'était juste de savoir, est-ce qu'ils ont dit à cette même population-là que cet espace vert est le survie de la population congolaise ou de l'espace prévu? Moi, je pense que le grand problème que nous avons en RDC, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas dire aux autres, ou le niveau de la sensibilisation est tellement limité. Il faut dire aux gens, c'est ça ce qu'il faut faire. Ceci dépendra de votre survie et de votre vie. Nous avons que ça qui donnerait quand même l'accès aux autres de savoir que ces informations que nous fournissons et tout ce dont nous voulons faire.
Ismaël,
est-ce que la population n'est pas informée? Je ne pense pas que la population va comprendre l'importance et l'idée essentielle. Et les organisateurs sont en train. Moi, à mon humble avis, je pense que c'est une bonne idée que nous tous nous pouvons nous soumettre. Mais à quelles conditions nous allons nous soumettre à cette loi prévue par ceux qui organisent la création d'un espace vert? En plus, ce matin, vous avez vu ce que je vous ai envoyé sur ce site. Parce que nous avons les chenilles saisonnières qui ravagent les champs. Et jusque-là, on ne dit rien à personne, la période est en train de passer, les maïs sont en train d'être ravagés, mais nous n'avons aucune sensibilisation. Mais il faut nous dire, à telle période, voilà votre survie, voilà ce que vous pouvez faire. Couper les arbres, il faut planter un autre arbre pour votre survie. Cela nous aiderait davantage pour ne pas aller au-delà des limites ou écologiques que nous avons besoin de survivre. Je pense que c'est ça que j'avais voulu dire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Ismaël. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, on part à Kananga pour donner la parole à Félix Moulumba. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Cathy Matoukou, bonjour les victimes de la partie au
Cathy. Nous parlons davantage hein, qui sont liés à la création du couloir vert Kivu-Kinshasa. Un commentaire à ces sujets?
Voilà, merci beaucoup. Je voulais poser la question à l'invité. Il a parlé de la création de l'espace vert. Alors, je voulais pouvoir créer l'espace vert. Je prends l'exemple de Cameroun.
Il y a des sifflements dans la communication. S'il vous plaît, M. Moulumba, déplacez-vous un tout petit peu. Est-ce que vous avez activé le haut-parleur de votre téléphone,
non? Non, non, il n'y a aucune radio ici.
Ça s'est nettement amélioré. On vous écoute. Allez-y.
D'accord. Je suis en train de dire que, soyez les choses, je prends l'exemple de Kalanga. Qui peut avoir cette volonté-là de créer les choses? Pourquoi? Où? Et comment? Parce que tout le monde vient ici se donne à des activités urbaines. Personne ne s'intéresse à l'agriculture. Personne ne sait comment s'appuyer à son environnement. Comment est-ce que la population peut avoir cette mentalité-là de créer de l'espace vert, sauf des espaces verts en général? Et si on va créer, comment procéder pour entretenir nos environnements? Alors, l'invité peut nous éclairer un peu sur ça, et après nous pouvons revenir pour d'autres questions.
Merci beaucoup, M. Moulumba. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kananga que vous intervenez. Comment répondez-vous d'abord à la préoccupation de l'auditeur de Lubumbashi, M. Ismaël, qui y a plaidé à ce qu'il y ait une sensibilisation auprès des communautés bénéficiaires de ces projets? Parce que si les communautés n'ont pas d'informations, ils ne vont pas avoir l'intérêt d'adhérer à ces projets.
Et quand vous lisez l'ordonnance revisant la loi sur la conservation de la nature et incessamment tout type de document qui va sortir, le principe de consentement libre informé préalable est consacré. Cependant, il est très important de rappeler que l'État a la responsabilité de conduire le développement. L'État décide dans quelle direction un pays doit se développer. L'affectation d'une zone, disant par exemple que ici, voici le type de développement que nous voulons, est un choix qui relève de la responsabilité étatique. Mais le grand défi dans la mise en place d'un projet d'utilisation de la nature ou des terres, c'est la sécurisation foncière. Et pour avoir la sécurisation foncière, il faut avoir un interlocuteur foncier attitré. Je venais de vous dire tout à l'heure le nombre de provinces, le nombre de communautés, le nombre de groupements est juste impossible si vous deviez y aller un à un. Donc c'est un processus. Pour l'instant, on commence par zoner, défaire une délimitation.
Délimitation des zones.
C'est comme Kinshasa. On a dit que Kinshasa se limite à Maluku. Est-ce qu'on avait besoin de poser à quelqu'un la question que Kinshasa se limite à Maluku?
Non. Et puis, on a réparti en 24 communes.
Ok, mais par contre, quand tu vas vouloir maintenant utiliser chaque espace, tu vas négocier avec chaque tenancier foncier, le faire adhérer. Donc, la sensibilisation, l'information, l'engagement des communautés ne viendrait que si il y a d'abord une zonification. Et c'est l'étape où nous sommes. Mais là où je trouve qu'effectivement les parties prenantes, notamment la société civile, ont raison, c'est qu'il y a un principe consacré dans la loi portant principes fondamentaux de la conservation, de la protection de l'environnement. C'est l'article 9 de cette loi de 2011. L'État ne peut absolument pas ni faire un plan, ni adopter une loi, ni prendre une mesure portant sur la vie de la population, une mesure environnementale portant sur la vie de la population, sans préalablement impliquer de manière conséquente ces parties prenantes. Et donc, c'est ici une occasion de recommander à ce que on a un premier processus que je préfère appeler zonage, affectation, délimitation. C'est tout à fait normal. Et décret portant délimitation. Je préfère même appeler cela, non pas décret portant création d'une aire protégée, mais plutôt appeler ça décret portant délimitation. Parce que tout doit se baser sur des textes de loi. Maintenant qu'on a mis en place les décrets portant délimitation, je préfère dire d'une zone pilote, d'économie verte en RDC, il est maintenant important que l'on ouvre le processus, que l'on l'ouvre le plus largement possible aux différentes parties prenantes, parce que il y a des usages préexistants. Il y a des usages économiques, culturels, même environnementaux. Et à ce moment-là, il est essentiel maintenant que toutes les parties prenantes soient mises autour d'une table, au niveau national pour le master plan, au niveau local, provincial et local, pour les micro-usages. Et notez que quand c'était dit à vocation communautaire, il y a une réglementation pour la vocation communautaire. Je pense peut-être que beaucoup de collègues n'ont pas compris la puissance de ce qui vient d'être mis en place. Aujourd'hui, le seul moyen de protéger les terres communautaires, les collègues du DGPA le savent, c'est les CFCL, la mise en place des concessions forestières de communautés locales. Mais on sait tous que ces concessions forestières de communautés locales sont un dispositif de protection des sécurités foncières très partiel, pour la simple raison qu'on voit aujourd'hui les Chinois qui viennent passer derrière les CFCL pour faire de l'exploitation anarchique du bois. Mais ici, le chef de l'État et les minerais. Ici, le chef de l'État dit, je vais faire une master sécurisation de 540 000 kilomètres carrés du territoire national. Moi, je pense que vraiment, rien que pour ça, la société civile devrait soutenir ce processus parce que...
Monsieur Tshiseya, il y a également des défis liés à la sécurité parce que de Beni à Kisangani, en passant par l'Ituri, il y a des poches d'insécurité.
Exactement.
Ça, mais c'est aussi un défi à relever.
Le premier point positif, on ne va pas adresser tout à la fin parce que je réponds au défi, à la question de l'interlocuteur. J'ai dit, il est d'abord question de sécuriser la zone de projet. Ensuite, de toucher chaque interlocuteur pour que l'interlocuteur implémente un modèle économique. Mais non, le président a été clair. Il dit, tirant des leçons de l'expérience autour des Virunga, du développement de l'économie autour des Virunga, du développement et de la paix qui s'est installée progressivement dans les régions autour des Beni. Qu'on le veuille ou pas, le fait de développer des activités d'économie verte restaure la paix, c'est-à-dire l'économie verte contre l'économie de la guerre. Le problème réel qui fait qu'il y ait la guerre, c'est quoi? C'est la pauvreté des communautés locales, qui sont instrumentalisées par des gens qui ont des intérêts. Et donc, et aujourd'hui, la chose encore la plus importante, c'est qu'on vient d'avoir un lien culturel véritable entre l'Est et l'Ouest de la RDC. Mais à travers la mère nature. En réalité, ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est d'unifier des Congolais de l'Est à ceux de l'Ouest, par la mère nature.
Et non les contraires.
Et non les contraires, mais...
Parce que certaines sources pensent au contraire.
Mais justement, quand on lit les textes, parce que ce sont les textes qui guident la démarche, quand on lit les textes, quand on regarde ce qui est fait, on n'a aucune imposition de l'usage, aucune. Tout ce que l'État dit, c'est que je veux que cette zone y soit développée des activités d'économie verte. Et donc, je préfère vraiment dire aux auditeurs que oui, le niveau d'information va monter crescendo au fur et à mesure qu'on va déterminer les zones d'action. Il y a, moi je fais du développement des projets carbone. Attendez, vous n'allez pas voir la communauté avant d'avoir identifié la zone où vous allez faire votre projet.
Non.
Sinon, vous consulterez tout le pays. Donc, on commence par identifier
délimiter
la zone.
Délimiter les zones concernées.
Vous faites ça. Oui. Vous faites des grandes négociations avec les grands décideurs, les gouverneurs des provinces, ainsi de suite.
Après, vous allez à la base.
Après, vous allez à la base parce que vous connaissez les attentes des communautés.
On va aller au standard. Il y a un auditeur qui appelle des Bounia. Il s'appelle Jonathan. Monsieur Tagamile, bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Oui, bonjour, chers journalistes, mais également bonjour à l'équipe.
On vous donne la parole.
Oui, merci beaucoup. J'interviens depuis l'université Shalom de Bounia. Et je viens à peine de suivre les dernières interventions de l'invité. Lui qui soulève l'aspect sécuritaire également avec vous. Et vous savez que ça, c'est une condition sine qua non. Alors, mais également, j'ai lu le rapport qu'a présenté le DGPA par rapport à cette question.
À ces projets.
Vous avez ces rapports.
Oui.
Alors, vous savez, oui, à ces projets, bien sûr, voulais-je dire. Vous savez, la question sécurité reste d'abord la préalable des choses à soulever parce qu'il y a actuellement la zone comme l'Ituri et une partie de Kinshasa, les Maïdombe, qui fait face à des conflits et qu'on sort. Alors, on ne saura pas mener un projet dans ce sens dans les milieux entourés par les conflits. Alors, je n'aimerais pas aborder beaucoup plus dans ce sens, Mais vous savez que le projet à visage au moins 1 milliard d'hectares, c'est ce que j'ai vu ici, 1 milliard d'hectares, des choses comme ça. Alors, il se pose un défi très important et majeur. C'est ce que j'appelle le défi logistique et notamment le défi administratif également. Vous savez, la gestion des 1 milliard d'hectares, ça demande des moyens logistiques, mais également des préalables administratifs mis en place pour arriver à accompagner ces projets. Nous n'aimerions pas que le gouvernement nous revienne à X jours pour nous dire que non, on a été mal entouré, parce qu'il y a eu une rhétorique comme ça que le président avait projeté à travers les chaînes, que non, il est mal entouré et parce que il y a certains animateurs, des institutions qui ne semblent pas être efficaces. Alors, c'est-à-dire, il y a des défis logistiques et administratifs, hein, des grandes avérités qu'on doit les évaluer déjà en amont. Mmh. Alors, vous savez, il y a aussi les risques de détournement. Vous savez que nous sommes un pays qui est caractérisé par le détournement et qu'on sort. Alors, un projet de telle avérité, et ceci demanderait aussi un financement, un fonds, donc c'est-à-dire des bonnes à veiller également. Des fois aussi, il n'est pas passé sous une bonne gestion, on a crainte à des risques de détournement. C'est ce que nous ne voudrions pas arrêter dans les jours à venir. Alors, chers journalistes, vous savez que ce sont des espaces protégés. Et un milliard d'hectares qui seront, en fait, qui seront, voulais-je dire, tirer des terres de la communauté, voulais-je dire. Vous savez, les communautés locales vivent de certaines ressources forestières, parce que justement, les exploitations forestières, mais également les exploitations minières, les activités commerciales, c'est bien bon de protéger les terres comme ça. Mais est-ce qu'on a dit à ces communautés, ou soit est-ce qu'on a réservé des espaces pour leur dire, bon, voici, on a conservé tel espace, et mais nous vous donnons
Tagamile, quel autre espace. Jonathan, s'il vous plaît, l'invité l'a relevé, l'invité, Junior Chitea l'a relevé, qu'on ne va pas faire la restriction totale des activités des communautés qui vivent le long du déploiement du projet. Vous qui êtes à Bounia, dites-nous quels sont les grands défis auxquels ce projet pourra faire face.
Bon, vous savez, d'abord, nous ici, le défi majeur, c'est d'abord le défi de l'activité, mais également, vous savez, il y a aussi le défi par rapport à la connaissance des biodiversités qui vont faire partie de ces projets. Vous savez, il faudrait aussi que c'est là qu'ils vont travailler sur ces projets, qu'ils aient quand même un minimum formation par rapport à des espèces qui seraient concernées pour ces projets. Parce que, vous savez, la question de biodiversité, ça inclut les animaux et des plantes. Si on a une mâle compréhension d'abord de ces thématiques.
Donc, procéder à l'inventaire, en l'inventaire de la biodiversité.
Ah oui, justement, que c'est ça. Alors, comme il n'y a pas vraiment assez de temps, je préfère me limiter à ce niveau. Mais j'interviens depuis l'université Shalom de Bounia et je vous souhaite de bonnes suites.
Merci beaucoup. Excellente journée à Bounia. On reste dans la même ville. Hein. Il y a Justin Calabia qui. On va essayer de rappeler, monsieur Justin. Comment répondez-vous à l'auditeur Jonathan Tagamile de Bounia?
Oui, donc, vous voyez qu'il y a une mauvaise compréhension par la population et je veux corriger. Ce n'est pas un milliard d'hectares. Toute la zone va occuper à peu près 540 000 km², 540 ou 514 000 km², ce qui est autour des 50 millions d'hectares. Mais dans cette zone des 50 millions d'hectares, il va y avoir une zone de conservation de 100 millions d'hectares, soit 10 millions d'hectares. Alors, il faut vraiment, je rappelle ici, que les moyens pour financer la lutte contre la pauvreté doivent venir des efforts que le pays va faire pour protéger la nature.
Excusez-moi, on retourne au standard et puis on va revenir ici au studio. Oui, oui. Justin, vous êtes à Bounia, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous. Monsieur Calabia, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonjour Monsieur Tati, meilleur vœu, Monsieur Tati.
Bonne année. Merci.
Oui, en tout cas, la thématique est très intéressante. Oui, vu...
La liaison, c'est dégradé. Déplacez-vous un tout petit peu de là où vous êtes.
La pauvreté de la RDC.
Ouais. Justin, il y a des micro coupures dans la communication. Est-ce que vous avez activé le haut-parleur de votre téléphone, non?
Non.
Ok. Non. Là, je vous reçois très bien. Allez-y. On vous écoute.
Oui. Oui. Je disais, Monsieur Tati. pour éradiquer la pauvreté, il faut une bonne volonté politique de notre gouvernement.
La liaison n'est pas fiable, on va essayer de vous...
Ça ne va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas?
Oui, vu la situation dont ça se dégrade, en tout cas c'est intenable. Oui, on dit que la RDC c'est un pays solution. Monsieur Tati, mais nous avons toutes les richesses dans ce monde. Mais la population congolaise demeure toujours, en tout cas, pauvre. Alors, il fallait que le gouvernement puisse activer en tout cas toutes ces batteries afin que la population puisse éradiquer toutes les misères possibles.
Oui, Justin, dites-nous, on est en train de parler du projet couloir vert Kivu-Kinshasa. Quels sont les avantages qui sont liés à ces projets portés par les chefs de l'État? Est-ce que vous avez une question spécifique ou oui. une suggestion spécifique
oui,
à avancer?
Tout à fait.
Allez-y.
Oui, voyez que le fait, tant que la guerre dans l'Est n'est pas encore faite, rien ne peut marcher. Parce que pour ce projet, en tout cas, c'était un solitaire ici à l'Est. Mais vu la sécurité, la façon dont se dégrade, la situation se tire. En tout cas, c'est ça.
Merci beaucoup, M. Galabia. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia, en Ituri, que vous intervenez. Excellente journée. Comment répondez-vous? Vous êtes en train de répondre au premier auditeur oui. qui a appelé Tagamine Jonathan dans la même ville, à l'Université Shalom.
Oui. Donc voilà. En général, pour répondre un peu à tous les auditeurs tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé le mot par lequel l'auditeur de Lubumbashi venait de dire limite écologique. Nous avons une planète qui se termine. Les études indiquent que la perte de la nature va être l'une des causes majeures de la dégradation économique. La pauvreté est notre priorité. Mais malheureusement, la pauvreté est la première cause de la destruction de la nature. Il est donc indispensable, même la guerre, cette guerre-là, a pour origine la pauvreté. Mais si nous pouvons développer un modèle économique plus attractif aujourd'hui, la tonne de cacao est plus chère que la tonne du cuivre. Ça veut dire qu'en lançant un grand programme de développement durable, basé sur l'utilisation durable de la nature, qui pourrait être financé par aujourd'hui tout ce qu'on appelle des financements carbone, tout ce qu'on appelle des crédits de la biodiversité, tout ce qui est crédit de la nature, mais en mettant les communautés au cœur. Nous sommes certains, et moi je défends le projet pour dire que c'est un projet qui va résoudre la quasi-totalité de ces difficultés qu'ils évoquent. La question de la logistique et la question de financement.
La gouvernance et
la gouvernance,
de finances allouées, affectées à ces projets.
Effectivement, ce sont des défis clés, mais je souhaite encore rappeler que c'est une méga affectation pour de micros. Activités. C'est-à-dire que, je donne un exemple, moi, dans la même zone, j'ai un projet carbone que je suis en train de développer. Ça veut dire que pour financer la région carbone de notre projet...
C'est aussi une opportunité pour les entrepreneurs.
Exactement, c'est une grande opportunité. C'est même ça le but, c'est de développer l'économie verte, l'entrepreneuriat vert. Donc, je voudrais vraiment souligner que les gouvernements communiquent suffisamment sur ce projet, sur
Elle
sa pertinence, pour que les gens comprennent.
Il se met de Lubumbashi l'arrivée.
Exactement. Que les gens comprennent qu'on ne vient pas faire de l'expropriation, on ne vient pas faire de la conservation, on vient plutôt implémenter de la durabilité. La durabilité, ça veut dire vivre en tenant compte des limites écologiques. C'est les mots d'Ismaël. Et le collègue de Kananga l'a dit. Comment les populations peuvent s'engager dans la création des espaces verts? Mais c'est tout à fait ça. On a 2 345 000 km² de superficie nationale. Eh ben, qu'on commence d'abord par une zone de 500 000 km² où on va enseigner aux communautés comment se développer durablement, faire des mines vertes, faire de l'agriculture verte, faire de l'exploitation durable du bois, faire de la pêche verte. Et grâce à ça, organiser les capacités de mobilisation de fonds pour transformer la vie de ces communautés.
Et Ismaël a relevé aussi la dimension liée à l'inventaire des ressources que nous possédons.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de très pertinent que le collègue de Bounia vient de dire. Personnellement, ça c'est vraiment à titre personnel, je travaille avec le ministère de l'aménagement du territoire dans les cadres du GEO, le groupe sur l'observation de la terre qui vient d'être mis en place, qui est en cours d'opérationnalisation. Eh ben, l'une de nos priorités, ça sera de faire l'atlas de la RDC de la biodiversité. Et évidemment, cet atlas-là pourra avoir une zone de priorisation, le travail qui va être fait au niveau du corridor écologique. Parce que c'est grâce à ça qu'on va savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va monétiser, qu'est-ce qu'on va restaurer, où est-ce que les habitants vont vivre. Et surtout, on va bâtir une paix. La paix va provenir du fait que on se lance dans un processus de développement est-ouest. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, quoi.
On retourne au standard parce qu'il y a encore des auditeurs, hein. Donc, on va leur donner la parole et puis on revient ici au studio. Thomas Ougueni, vous appelez également depuis la ville de Bounia. Bonjour et bienvenue dans Capi Service, monsieur Thomas.
Éminent
mandat plutôt. On vous donne la parole.
Oui.
Après, on donnera la parole à Thomas. Allez-y.
Oui, bonjour Tati Mapouk, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bonjour.
Je pense très bien que la thématique d'aujourd'hui est très importante, du fait que la RDC est un patrimoine commun de l'humanité à ce qui concerne sur le plan de sa diversité forestière. Je peux d'abord poser la question à l'invité. Est-ce que avant de cibler ces zones-là dans les corridors, on avait d'abord étudié le préalable pour que cela ne puisse pas causer problème à la population locale? Parce que moi, je vous dis, je prends l'exemple de Chabunda. Il y a les gens qui ne vivent que de l'agriculture. Et si, par exemple, ces corridors-là s'étendent jusqu'à Nouma, Natal, et ces gens-là, s'ils n'étaient pas préparés, je pense qu'avec la situation de sécurité de la RDC, on peut dire que c'est une façon peut-être de venir nous imposer le rebelle, et ainsi de suite. Et donc, est-ce que le gouvernement avait d'abord eu le temps de sensibiliser la population riveraine afin que ces projets-là ne puissent pas avoir de succès? Et deuxièmement, je peux interpeller la responsabilité des gouvernements dans le plan, dans l'exécution de ces 10 projets, parce que nous ne sommes pas étrangers dans ce pays, nous savons comment les choses se font et comment elles commencent et puis elles se terminent comment. Je ne veux pas que ces projets cette fois-ci ne puissent pas être une occasion pour certains de détourner des fonds conséquents de l'État et de financement que ces projets pourraient bénéficier. Parce que en premier lieu, selon ce que je vous ai suivi religieusement, c'est un projet qui peut réellement aider le pays à émerger sur le plan économique et sur le plan industriel. Mais sinon, il y a une crainte à ce qui concerne son exécution et le moyen à mise en place afin que cela ne puisse pas vraiment causer de sérieux problèmes dans l'exécution. Parce que moi, je suis ici à Bukavu et je vois comment la forêt était en train d'être dégradée. D'abord, en droit, il y a un principe qui dit ceci, le principe des pollueurs payants. Mais l'environnement qui constitue soit une couverture de la population humaine qui est en train d'être dégradée, et le projet en question, je crois que vise beaucoup plus la protection de la nature. C'est pour cela que l'invité pourrait nous aider à éclairer l'opinion. Je sais très bien que cette émission est bien suivie. Les gens puissent comprendre d'abord la nécessité, l'urgence et l'importance de ces 10 projets, afin que la population soit préparée et l'État puisse encore faire des sensibilisations, ou soit que les concernés de ces projets-là, ainsi que les interlocuteurs, puissent d'abord se mettre sur le terrain, afin qu'ils sensibilisent davantage la population pour que les projets en soi ne puissent pas avoir de contrepoids et ne puissent pas être vus comme une façon de détourner le patrimoine de la population.
Merci beaucoup, Monsieur Minan Mwanda. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bukavu que vous intervenez. À vous la parole.
Tout à fait. Je pense que Monsieur Eminent a dit tout ce qu'il fallait dire. L'État a la responsabilité.
Excusez-moi, Monsieur Junior. Oui. Il y a Thomas. Oh, on a oublié Thomas. Thomas, bonjour et bienvenue dans Capi Service. Vous intervenez depuis la ville de Bounia.
Ok. Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour. Bonjour à l'invité. Je pense, Monsieur Jody, ce projet-là est vraiment très salutaire, comme les prédécesseurs l'ont soulevé.
Relevé,
Et je pense au relevé plutôt, mais également on devait quand même à féliciter les chefs de l'État pour passer à ces pareilles initiatives quand même. C'est vraiment très salutaire. Et ces projets, si jamais on l'exécutait conformément à Dieu, bon, ça peut être également une source de revenus pour le pays. Ça peut générer des revenus énormément au pays si jamais on l'exécutait de façon correcte. Mais on ne peut pas quand même, on ne cessera jamais de dire, monsieur, je dis, dans ces pays-là, où on connaît la mentalité de nos dirigeants, à qui on va confier ces projets-là. Il y a beaucoup de projets dans ces pays, mais ça ne se termine pas. Il y a eu des détournements. Qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci, ce projet ici va s'exécuter correctement? Quels sont les mécanismes qu'on a eu à placer, surtout à placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que l'homme congolais caractérisé par la mentalité là de détournement, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette fois-ci, parce que c'est un projet très sanitaire, je l'ai dit, ça peut générer énormément de revenus au pays.
Merci beaucoup monsieur Thomas pour cette interpellation, cette énième interpellation. Ils ont relevé sur la gestion des fonds qui seront alloués à ces projets, parce que le projet il est très louable. En conclusion, parce que le temps se graine vite, monsieur Junior, qu'est-ce qu'on peut retenir comme avantage plus-value dans le cadre de ces projets? Et est-ce que dans la région, il y a un tel projet qui a été développé et qui a marché dans les pays limitrophes ou en Afrique?
Oui. La Zambie, par exemple, toutes les aires protégées en Zambie, sauf si je me trompe, sont des aires protégées communautaires. La meilleure manière de conserver et de restaurer la nature, c'est de confier à la population ses objectifs. On vient de voir des pays comme le Népal, qui avait un vrai problème avec toutes les initiatives publiques des restaurations de la nature, de préservation de la nature. Dès que le Népal est passé en communautaire, tout le système s'est amélioré. Et ici donc, nous avons l'opportunité, vraiment, de soutenir une volonté politique. C'est une réserve à vocation communautaire. Que les organisations de la société civile accompagnent les communautés. Que l'on s'approprie du processus afin que nous puissions avoir cette transformation économique par l'économie verte.
Merci d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous, Junior Tutea. Nous rappelons que vous êtes expert en développement durable
et économie du climat.
Et ce n'est qu'une partie remise. Merci. Et à la prochaine occasion.
Très bien.
C'est par ici que s'achève les magazines Okapi Service que vous a présenté et coordonné Tati Mapoukou. Jean-Marc Ematoi qui était à la supervision, grâce à un Vézolo s'est occupé de la prise de son, et Billy Landry Betou était à la prise de son. Excellente journée.
Merci.